France Culture.
Les nuits de France Culture.
En ce temps-là, la France se remettait à peine des convulsions de mai 68. Toute une génération d'étudiants, de militants, d'activistes cherchait de nouveaux combats ou une nouvelle cause à défendre. L'actualité et peut-être aussi une certaine verticalité dans la gestion des affaires publiques, typique du gaullisme triomphant de cette époque, allait bientôt leur apporter ce nouveau combat sur un plateau. Dans le lointain Aveyron, on avait décidé en haut lieu d'agrandir un camp militaire sur des terres agricoles. En très peu de temps, la mobilisation des agriculteurs concernés localement prend les dimensions d'une épopée. Étudiants, hippies, contestataires, antimilitaristes, intellectuels et même responsables politiques défilent dans les causses du Larzac pour défendre le bon droit des paysans en lutte. Sur place, cette cohabitation soudaine entre des milieux si différents, naturellement, ne va pas sans heurts ni sans quelques incompréhensions. Mais au bout d'une décennie, cette lutte du Larzac est victorieuse, après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981. En 1997, Emmanuel Laurentin revenait sur cette longue lutte et cette victoire du Larzac en donnant la parole aux acteurs des événements des années 1970. Dans deux numéros de l'Histoire en direct. En voici le premier volet, un volet documentaire. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er septembre 1997.
L'Histoire en direct. Le Larzac.
Degré de force, nous garderons Larzac. Degré de force, nous garderons Larzac.
Nous voici une fois de plus sur ce plateau du Larzac. Cette année, c'est à notre appel, paysans du Larzac, et à celui de tous ceux qui mènent le même combat que vous avez répondu. Merci d'être venus si nombreux. Il est vrai que beaucoup d'entre vous êtes de vieux amis du Larzac.
J'aime bien les moutons, ce que je n'aime pas.
Moi, dès la porte d'Orléans, je fonce sur Larzac comme on retourne vers son pays natal. Signé, un ami parisien du Larzac.
Au début des années 70, des centaines de milliers de voitures popularisent par des autocollants placés sur leur vitre arrière, un nom jusqu'alors inconnu de la plupart des Français. Le Larzac. Le Larzac, c'est un plateau, un causse, situé entre Millau et Lodève, dans le département de l'Aveyron. Pendant 10 ans, entre 1971 et 1981, tout l'imaginaire, régionaliste, contestataire, antimilitariste d'une France à peine sortie de 68, va s'investir sur le plateau. Tous les étés, de grands rassemblements musicaux et politiques vont faire venir des dizaines de milliers de personnes au Rajal del Gorp, l'un des coins les plus sauvages du Larzac. Des comités Larzac vont fleurir dans toute la France sur le modèle des comités Vietnam et porter très haut l'image idéalisée du paysan du Larzac. Pourquoi ? Parce qu'en 1970, dans le village de la Cavalerie, le secrétaire d'État à la Défense, André Fanton, annonce que la superficie du camp militaire situé sur le plateau passera de 3000 à 17000 hectares, obligeant ainsi les agriculteurs du Larzac à quitter leurs fermes ou bien à vendre leurs terres. André Fanton.
Eh bien, ça se passe sous les acclamations.
C'est-à-dire que c'était un... On avait fait un déjeuner, je ne sais plus à quelle occasion, ça devait être un déjeuner politique d'ailleurs, qui était présidé par M. Poscari Montservin, qui à l'époque devait être président du Conseil Général, en tout cas qui était le personnage important du département. Et les responsables politiques du département demandaient depuis des années qu'on fasse quelque chose pour sortir ces environs de Millau, parce que c'est au-dessus de Millau, de l'espèce de misère dans laquelle ils se trouvaient. Et donc, il y avait eu une grande réunion, il y avait au moins 300 ou 350 personnes, et j'ai annoncé que l'État avait décidé l'agrandissement du camp du Larzac avec toute une série d'équipements, naturellement, puisqu'il ne s'agissait pas simplement de mettre des barbelés. Et naturellement, ça a été considéré comme une annonce positive. Le lendemain, le journal Le Midi Libre avait fait une page entière sur enfin la bonne nouvelle, enfin l'État s'occupait du Larzac.
Jean-Louis Espers, vous êtes un des rares à assister, en tant que membre de l'UDR à l'époque, au discours qui va mettre un peu le feu aux poudres. C'est le discours qui est fait par André Fanton, qui vient à la cavalerie. Comment ça se passe ?
Monsieur Delmas, qui était le député de la circonscription à l'époque, en avait un petit peu parlé. Mais moi, je suis arrivé à cette réunion sans savoir ce qui allait vraiment se passer. Et c'est à cette occasion, on en avait parlé, mais qu'André Fanton a annoncé cette nouvelle. Et je pense que certains la connaissaient parce qu'il y a eu dans la salle, il y avait trois opposants. Trois opposants, en l'occurrence Pierre Laure, fromager de Roquefort. Il y a eu Monsieur Tarlier, décédé depuis, mais qui a été une des grandes figures de la lutte anti-Larzac, et un avocat de Millau qui s'appelle Alain Larguier. Et ces trois personnes étaient dans la salle, et donc ça avait dû se savoir.
Pierre Laure, alors tout de suite après cette réunion, vous faites payer par des industriels du Roquefort une pleine page du Monde qui dénonce l'extension du camp militaire.
Exactement. C'est la seule manifestation tangible que j'ai eue, et coup de main au départ, mais enfin, coup de main qui a été quand même intéressant, parce que c'est à ce moment-là que nous avons monté une association avec Tarlier et Ramad pour interdire le camp. On voulait nous faire croire que c'était la richesse de la région, alors que c'était un appauvrissement. J'avais visité tous les camps militaires de France et de Navarre, j'avais fait des enquêtes dans tous les bistrots, à part les filles à soldats, et les bières à 50 centimes, la richesse à la portée n'était nulle.
Jean Andrieux, conseiller municipal à la cavalerie.
Depuis que j'étais gamin, c'était un espoir pour tout le monde. Tout le monde parlait d'extension du camp, que ça serait très bien, s'il y avait un peu plus d'emploi, un peu plus de dynamique. Donc c'était espéré. Quand Fanton l'a annoncé, il y avait beaucoup de gens qui étaient heureux.
Alors au tout début, quand tout cela démarre, vous pensez que vous pouvez traiter, vous, en tant qu'élu municipal à la cavalerie, disons de façon tranquille, le problème avec les agriculteurs du coin, et que tout ça va pouvoir se régler sur un coin de table?
Oui, c'était notre sentiment, parce que les agriculteurs voulaient se défendre, et ils avaient le droit de se défendre, à mon avis. Mais ils ont été vite dépassés par des problèmes politiques, des contestataires qui n'avaient rien à faire sur le Larzac, qui sont venus, les non-violents, tout le monde s'est mêlé de cette affaire. C'était le point central des contestations, le Larzac, à une certaine époque.
Georges Tourlet est allé sur le plateau. Il a recueilli un point de vue qui n'avait encore jamais été exprimé, celui des militaires du Larzac, et plus précisément, celui du colonel Gros qui les commande.
Il y avait une infrastructure existante depuis 1902, d'une superficie réduite de 3000 hectares. C'était satisfaisant lorsque nous avions une armée pédestre et hippomobile. Actuellement, avec une armée mécanisée, moderne et blindée, ce n'est plus possible de manœuvrer sur 3000 hectares. Ensuite, la proximité d'implantation d'unités militaires dans le sud-ouest, la restructuration de 75 va conduire d'ici les années 85 à un redéploiement des forces de l'armée de terre, et la nécessité d'un camp dans le sud-ouest se faisait sentir. D'autre part, il faut quand même reconnaître que la nature des terrains ici sur le Larzac est telle que, en définitive, c'était ici qu'il semble y avoir le moindre gêne pour les gens qui seront spoliés ou qui seront expropriés dans cette affaire.
Paul Masson.
Et je suis arrivé, moi, à la tête du cabinet civil et militaire de Michel Debray un 1er novembre. Et le 5 novembre, j'avais la fête du Larzac sur les bras. Et les russes que nous recevions à l'époque nous expliquaient que leur supériorité était effectivement qu'ils avaient des camps de manœuvre infiniment supérieurs à ceux que nous avions dans l'Hexagone. Une des nécessités qui apparaissait à la Défense nationale, c'est de déployer des chars par centaines sur un territoire réel et non pas de faire des tirs par simulation dans les laboratoires. Les Russes estimaient que la capacité manœuvrière de leurs chars était beaucoup plus forte parce qu'ils avaient les vastes espaces des steppes et des pays de l'Est.
Il faut dire aussi que ce défilé voilà la patrouille se prépare de France. Longtemps à l'avance, les voilà.
La patrouille de France qui arrive avec
les phares éclairés à l'avant,
la fumée tricolore,
ils sont presque à la verticale des Champs-Élysées. C'est vraiment très impressionnant. Vous entendez certainement le bruit des réacteurs. Voilà les fougas magistères de la patrouille de France. Toutes les têtes, aussi bien dans la tribune officielle que dans le public, se sont levées dans un bel ensemble et déjà apparaissent les premiers engins blindés de la gendarmerie.
Marisette Tarlier, comment avez-vous appris l'extension du camp ?
Eh bien moi, contrairement à beaucoup de gens sur le plateau du Larzac qui l'ont appris en regardant la télévision, moi je l'ai appris dans une pharmacie à Millau, chez un pharmacien, M. Crouzat, qui a une maison à Potensac, sur le plateau du Larzac, et qui m'a dit, voilà, eh ben, il va y avoir une extension de camp, on va être exproprié, on va être obligé de partir. Et tout de suite, ma première réaction, c'était de me dire, attendez, il y a la nationale, bon, moi, je suis de l'autre côté, le camp militaire est d'un côté, moi, je suis de l'autre côté, donc je ne suis pas concernée. Alors, ça devait tellement se voir, il m'a dit, non, non, Madame Tarlier, ça passe la nationale 9. Bon, c'était énorme à cette époque-là, puisqu'ils avaient 3000 hectares et ils en voulaient 18 000. Hein. Ils ont rétréci un petit peu après. Mais je l'ai appris comme ça. Et bien après, ben, je suis montée à la maison et puis je pleurais, je dois le reconnaître. Parce qu'on avait fait tout ça avec Guy, la maison n'était pas terminée, mais on avait choisi de vivre ici. C'était une période où Millau mourait et ils ont pensé, je crois, d'abord il y avait des promesses de l'armée disant au départ qu'il y aurait au moins 2500 à 3000 emplois et une région qui meurt, la ganterie qui s'essoufflait, c'est merveilleux. Ils ont donné des chiffres idiots, on était tous vieux, il n'y avait pas de brebis, enfin c'était un désert. Et ils se sont vraiment pas rendu compte que quelques années auparavant, une revitalisation avait été commencée par des gens du plateau quand même, des Aveyronnais, mais aussi par des gens extérieurs comme nous, qui sommes venus nous installer.
Alors vous étiez arrivé à quelle période avec
En 1965.
Jean-Louis Espers.
En 1965, les communes de Sainte-Afrique, la Cavalerie, Millau, etc. prennent des délibérations en demandant que le camp soit agrandi et soit plus actif et qu'il y ait des troupes en permanence. Et ces délibérations partent de tous les conseils municipaux parce que même les agriculteurs, des agriculteurs du Larzac, l'avaient demandé parce qu'ils ne voyaient pas de perspective agricole suffisante à l'époque, en 1965. Mais en 1970, 5 ans plus tard, les choses avaient quelque peu évolué. Et ça, l'administration ne l'a pas pris en compte.
Dans les années 60, l'État, soucieux de moderniser le pays, ne se posait pas beaucoup de questions sur l'accueil que les populations locales pourraient faire à ces grands projets d'aménagement. La création d'une centrale nucléaire, d'une autoroute, d'une usine pétrochimique ne supportait pas de contestation. Après 1968, les formes montantes d'opposition au centralisme changèrent la donne. Régionalisme, gauchisme, écologie trouvèrent dans l'affaire du Larzac de quoi contester la morgue supposée de l'administration. Pourtant, les premiers opposants à l'extension du camp, les paysans, choisirent dans un premier temps de faire jouer leur relais traditionnel, c'est-à-dire les syndicats agricoles. Christiane Burguière.
Il y avait des manifestations un petit peu violentes, pas violentes sur les personnes. Hein. Il y avait des dépôts de pierres devant la maison du maire de la cavalerie, des choses comme ça. Et moi, je me souviens, la première manifestation, le 6 novembre 1971 à Millau, où il y avait les organisations agricoles, je crois que c'était elles d'ailleurs qui avaient organisé, c'était la première manifestation que Pierre et moi nous faisions ensemble. Et à ce moment-là, moi j'avais 24, 25 ans, je crois. Et j'ai demandé à Pierre s'il avait pris son couteau à la poche. Mais vraiment, c'était, si vous voulez, pour une défense au cas où il se passerait quelque chose. Et je me souviens, je lui ai bien dit au moins, tu t'en serviras pas. Il m'a dit, non, c'était une sécurité. Et quand je repense à ça, je me dis, mais c'est complètement fou comment j'ai pu lui dire ça. Alors que on n'avait pas du tout découvert à ce moment-là ce qu'était la non-violence, bien sûr. Et c'est vrai que cette manifestation, on avait très peur. Parce que même les Miavois avaient peur, parce qu'ils fermaient leurs fenêtres, leurs volets, les magasins étaient fermés. Il y avait quand même 6 000 personnes.
Gérard Deruy.
La FNSEA est sollicitée par les agriculteurs qui ont toujours eu comme interlocuteur la Chambre d'agriculture, la FNSEA, des notables ruraux. Ils se sont tournés vers eux, ces agriculteurs-là, en disant « mais voilà ce qui se passe, nous on n'est pas d'accord, il faut nous défendre, il faut être avec nous dans cette bataille ». Et les deux premières années, peut-on dire, c'est-à-dire en gros 71-73, la résistance s'est organisée autour des notables ruraux, autour de la Chambre d'agriculture en particulier, Raymond Lacombe, qui fut plus tard le président national, qui est un authentique paysan de l'Aveyron, un authentique militant aussi. Lui a vu rapidement les enjeux, mais a essayé de canaliser d'une façon un peu institutionnelle son mouvement à ce moment-là. Quoi.
Et Michel de Baptiste aussi, qui était à la tête de la FNSEA.
Et de Baptiste, lui, était proche un petit peu des milieux gouvernementaux ou pas très oppositionnel politiquement, et essayer de dire, bon, ben, si on ne fait pas 14 000 hectares, peut-être 10 000, ça suffirait. On cherchait des solutions de ce type, quoi, à ce moment-là.
Les agriculteurs ou les habitants de cette région de France ont été surpris par l'annonce d'une décision. Ils considéraient qu'ils n'étaient pas consultés, qu'ils n'avaient pas été consultés. Ils ont pu faire valoir au ministre de la Défense nationale leurs problèmes. Et comme, justement, le ministre de la Défense nationale a bien voulu être sensible, n'est-ce pas, à leurs problèmes, à leurs arguments, puis qu'il a accepté qu'il y ait un groupe de travail qui se penche sur ces questions, je crois que c'est tout à fait normal qu'on s'achemine vers une détente sur cette question-là, puisque l'important était de sauvegarder les intérêts de l'économie de cette région, et en particulier des agriculteurs.
10 novembre 1971, Michel de Baptiste sort de chez Paul Masson, ministère de la Défense.
Dès que j'ai vu l'ampleur que prenait l'affaire, c'est-à-dire 15 jours après mon arrivée, j'ai demandé au ministre d'avoir un contact direct avec ces gens-là. Et j'ai fait monter à Paris, je me souviens plus, une dizaine de délégués. Il y avait la Fédération des syndicats agricoles, il y avait les contestataires principaux, les gros agriculteurs. Et tout ceci a été reçu à l'hôtel de Brienne, dans le faste et le prestige de ce magnifique bâtiment. Garde républicain, huissier à chaîne, et le ministre les a reçus. Le ministre a déjeuné avec eux, tout ça s'est passé dans une bonne ambiance. Et après, moi, j'ai traité un peu du dossier. J'avais le sentiment, quand ils sont sortis vers 4h de l'après-midi, que c'était tout à fait réglé. Et en tout état de cause, qu'il restait plus que quelques points durs sur des terres très, très, très localisées. Alors après, l'affaire s'est engluée pour des raisons de procédure et manifestement parce que l'autorité militaire ne se prêtait pas beaucoup à des gesticulations. Aussi parce que l'écologie est arrivée et qu'ils ont trouvé là de nouveaux renforts. Sans doute aussi parce que à l'intérieur, sur place, on leur conseillait de ne pas trop lâcher ou pas trop lâcher tout de suite. Il y avait encore quelque chose à gratter. Mais j'avais le sentiment que cette affaire aurait été prise avant l'annonce et non pas après l'annonce. Elle était tout à fait réglable et personne n'aurait jamais parlé du Larzac.
Je crois en effet que
Pierre Messmer.
La contestation, l'évaluation d'une contestation éventuelle a été sous-estimée, car nous pensions que cette affaire resterait localisée et par conséquent n'intéresserait que quelques dizaines de familles, en réalité. Et quand je dis quelques dizaines, je suis certainement généreux. Et que par conséquent, il serait possible de régler ces affaires, de quelque sorte à l'amiable. Peut-être, d'ailleurs, aurait-il fallu, à la fin, faire une ou deux expropriations. J'ajoute que nous avions des raisons de penser que la chose était possible, puisque quelques années avant seulement, j'avais parfaitement réalisé, et sans remous, la constitution de l'énorme camp de Canjouers, qui est le plus grand camp de France et le plus grand camp d'Europe occidentale, 35 000 hectares, sans aucune difficulté. Nous avions négocié, et aujourd'hui, le camp de Canjouers, non seulement existe, mais il apporte à la ville de Draguignan, je dirais, l'essentiel de son activité.
Pierre Laure.
On nous a dit, ne faites pas de bruit. Et l'affaire se réglera entre gens comme il faut. C'est le raisonnement que nous avait tenu le NR hein, ou l'UDF, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Ils nous avaient dit, faites pas de bruit, on va faire régler ça au plan local. Et nous avons longtemps hésité avec Tarlier, tous les deux, pour savoir si on restait au plan local et en essayant de régler le problème au mieux, ou si on en faisait une affaire nationale. Et tous les deux, après avoir réfléchi longtemps, nous avons décidé d'en faire une affaire nationale. Et c'est à ce moment-là que nous avons lancé des appels dans les journaux, que nous avons fait des réunions partout, et que tous les partis politiques, selon leur humeur, venaient nous défendre, ou au contraire se retirer. C'était la marée, vous savez, le flux, qui venait aller selon les mouvements de terrain.
Un seul incident grave est à signaler en France, à Rodez. Des manifestants ont brûlé des drapeaux tricolores et les ont remplacés par des drapeaux noirs. Ils proclamaient ainsi leur amour du Larzac. Cette manifestation n'a pas plu à tout le monde. Le service d'ordre de la FNSEA est intervenu et il y a eu de sérieuses bagarres. Cette destruction du drapeau français a soulevé une vive émotion, d'autant plus qu'elle survient 48 heures seulement après la profanation du mémorial de la déportation à Paris.
14 juillet 1972. Jusqu'en 1972, l'affaire Larzac reste encore circonscrite aux limites du département. Mais la venue à la fois de militants d'extrême gauche, à la recherche de feux révolutionnaires à attiser, et de défenseurs des idées non violentes de la communauté de l'Arche, créée par Lanza del Vasto, va bouleverser le paysage et pousser les paysans du Larzac à constituer un groupe pur et dur, celui des 103. Gérard de Ruy.
Lanza del Vasto est arrivé. Alors comment est-il venu la première fois? J'avoue que je n'en ai pas souvenir, sans doute invité, ou ils étaient déjà venus dans une période précédente sur le Larzac. Ils n'étaient pas loin de là, à la Borisèche, dans l'Hérault. Et ils étaient venus sur le Larzac dans la période où le camp militaire, dans les années 55, après la guerre d'Algérie, était un camp d'internement pour les Algériens. Et là, il y avait déjà un mouvement de la gauche de l'époque qui protestait contre ces camps d'internement. Et il y avait même eu une manifestation où on était vraiment peu nombreux, une cinquantaine de personnes, qui avaient fait un mouvement de défilé autour du camp, un peu à l'initiative des militants de l'Arche et de Lanza del Vasto. Donc Lanza del Vasto s'est intéressé à ce Larzac. Le fait que ce soit des paysans, que ce soit des pasteurs, qu'il y ait des brebis, ça correspondait bien à son image de vie sur le terrain, autour de l'agriculture, donc ça collait assez bien. Et Lanza del Vasto est catholique, donc il développait autour d'une idéologie catholique, avec des pratiques fortes de terrain, le jeûne, la messe, la prière. Et il est venu, sa première action, organiser un jeûne sur le Larzac. Et ça a plu beaucoup aux paysans qui, justement, étaient catholiques.
Disons que Lanza, on était aussi cathos à cette époque-là.
Marisette Tarlier.
Et donc, ça tombait dans un terrain formidable. On était croyants, on allait à la messe. Lanza nous apprenait que... Enfin, nous disait qu'on pouvait très bien croire en tout ça, mais aussi se révolter. On avait le droit. Et... on n'avait pas envie de prendre les fusils. Bon, enfin, certains disaient on ne partira que les pieds devant et tout. Nous, c'était pas notre cas. Hein. Alors donc, c'est tombé dans un bon terrain et ça nous a confortés dans ces idées chrétiennes et catholiques.
D'autant que la hiérarchie catholique, ça n'aurait peut-être pas été le cas 10 ans plus tôt, mais la hiérarchie catholique, vous suivez, même vous précédez sur ces idées-là.
Tout à fait. On a eu un soutien extraordinaire de la part de l'évêque de Rodez. Et puis. Il y a des groupes dans les campagnes qui s'appellent CMR, chrétiens dans le monde rural, et donc les prêtres qui étaient avec nous, c'était extraordinaire. On faisait des débats, on refaisait le monde, et voilà. Il faut bien le dire qu'au départ, la non-violence c'était vraiment une tactique. On n'est vraiment pas idiots, et on s'est vraiment rendu compte que quand on se couchait par terre sur une route ou qu'il y avait plein de CRS, plein de flics et tout ça, c'est une force, mais c'est incroyable. Que si on s'était mis avec des cailloux et tout, très vite, ils nous auraient embarqués dans tous les sens. Mais c'est très, très dur hein, d'être non-violent. Moi, j'ai été prise en flagrant délit. J'ai une photo où on me traînait. On avait fait un barrage, alors on s'asseyait, on fait un sitting. Ils nous enlèvent, ils nous jettent sur le côté de la route. On se remet derrière, on s'assied. Puis il y avait une flaque d'eau qui était extraordinaire. Alors, ils prenaient les gens, ils les mettaient dans les flaques d'eau. Bon, et moi, j'avais pas du tout envie d'aller dans cette flaque d'eau. Je suis assez coquette. Et non, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai donné un coup de poing terrible et je suis prise en photo à ce moment-là. Donc, la non-violence, c'est pas évident non plus. J'aurais pas dû faire ça.
Vaio di notti come va la luna. Je vais de nuit, ve comme va la lune. Je veux la voir, la galante déesse. J'ai sur ma route rencontré la mort brune. sans yeux ni bouche, elle regarde et parle et me dit...
Le serment des 103.
103 agriculteurs sur 107 concernés par le projet d'extension ont signé le protocole suivant. Nous sous-signés, exploitants agricoles, touchés totalement ou partiellement par l'extension du camp militaire, pour mettre fin à tous les mensonges ou insinuations qui ont pour but de tromper l'opinion sur notre véritable état d'esprit, nous confirmons publiquement notre opposition au projet d'extension et, sûrs de notre bon droit, nous prenons solidairement l'engagement de repousser toute tentative de séduction, d'intimidation et toute offre d'achat de nos terres de la part de l'armée et toute indemnisation.
Pierre Burguière.
Lorsqu'il y avait des décisions à prendre, c'est des décisions qui se sont prises à l'unanimité, je dirais à 99% des cas, qu'il y a eu quelques décisions, mais très peu qui ont été prises par un vote, mais que donc pour arriver à ce consensus de l'unanimité, eh bien ça nécessitait de très nombreuses réunions et que fréquemment on avait 3, 4, 5 réunions, des fois une réunion tous les jours de la semaine, et pour justement expliquer chaque fois aux gens pourquoi on pensait qu'il fallait faire comme ça plutôt que comme ça, parce que bien sûr qu'on faisait une analyse politique de la situation, ça c'est sûr, mais on s'est, grâce à la non-violence justement, on a découvert qu'en fait, parce que ça aussi, la non-violence est une stratégie, que être crédible dans l'opinion publique, il fallait qu'on apparaisse toujours comme des martyrs.
Monsieur Michel Debray parlait à l'Assemblée nationale cet après-midi. Il a fait remarquer la réforme du service militaire, l'action sociale des armées et la gestion de ces armées, la gestion économique du département. Le ministre a également tenu à apporter quelques précisions sur ce qu'on appelle déjà l'affaire du Larzac.
Le Larzac est une opération politique. Le choix, là aussi, s'imposait. L'austérité du vent et de la neige donne peu de chance à l'installation d'activités diverses. Finalement, à quoi rime cette agitation? Elle est claire, je vous le disais tout à l'heure, nos pères ont entendu pas un homme, pas un sou. Cette phrase est un peu éculée, on la remplace laïquement ou ecclésiastiquement par les mots « pas une herbe, pas un caillou ».
Moi, j'étais convaincu qu'on aurait pu régler l'affaire dès 1972.
Paul Masson.
S'il n'y avait pas eu, de la part d'autorités militaires, une certaine rigidité à l'époque, ou plutôt une méconnaissance de la communication.
Enfin, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, autant les autorités locales comprenaient bien la situation et entretenaient avec les manifestants et les protestataires des rapports assez cordiaux, autant l'autorité hiérarchique s'était enfermée dans une vision réglementaire, procédurière et fermée, pour tout dire. Il fallait naviguer entre les deux, c'était pas toujours évident. Et puis est arrivée la perception, la dimension écologiste du problème, qui a rassemblé autour des équipes initiales, des amateurs de spectacles, des protestataires et contestataires éternels, très ancrés dans un principe philosophique qui était ne toucher à rien.
1973, le chanteur occitan Claude Marty.
Qui a décidé l'extension du camp de Larzac, l'extension du camp de Quingers, la création du camp ici à 30 km d'Embrez et Castelmaur, qui a décidé cet aménagement du littoral comme il est fait et pour qui il est fait. Voilà, c'est jamais nous. On n'a jamais rien décidé.
De toute façon, d'après tout ce que j'ai entendu, l'affaire du Larzac a joué un très grand rôle dans le développement de la sensibilité languedocienne.
Il n'y a pas que ça. Hein. C'est une lutte symbolique. Quoi. Nous savons que le Larzac, c'est partout. Le Larzac, c'est chaque fois que dans ce pays, un jeune sortant de l'école est obligé de faire 800 km pour trouver du travail. Le Larzac, c'est chaque fois qu'un pêcheur de la côte méditerranéenne est obligé de céder le pas aux promoteurs. Le Larzac, c'est chaque fois qu'un volet de ces villages d'Aux se ferme, etc., etc. Vous comprenez, c'est ça, le Larzac, c'est partout, finalement. Quoi.
L'un défendait le Larzac parce qu'il était le Larzac. Il y avait les chasseurs qui ne voulaient pas qu'on les emmerde. Il y avait les philosophes qui ne voulaient pas de guerre.
Pierre Laure.
Il y avait les écologistes qui voulaient garder la nature. il y avait les partis politiques qui s'en servaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Je pense notamment au Parti communiste. On le voyait arriver et puis repartir, mais régulièrement. Au bout de 10 ans, quoi. Le procédé était très simple. Ils arrivaient quand on faisait une manifestation, ils disaient, ben voilà, d'accord, on est d'accord, puisque la dernière a bien marché, il n'y a pas de raison que la suivante ne marche pas. Donc on est d'accord, on vient vous soutenir. D'accord, avec plaisir. Et on va la faire comme ci, comme ça. C'est certain que les paysans, en particulier italiens, on l'a fait d'une autre façon. Et si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Alors tantôt ils venaient, ça dépendait du vent porteur, tantôt on ne les voyait pas. C'était vachement marrant.
Alors justement, c'est assez bizarre cette union, parce que cette union est quelquefois contre nature. Il y a à la fois des pacifistes et des maoïstes qui veulent se bagarrer, qui veulent faire des actions violentes, et quelquefois qui réussissent à en faire quelques-unes.
Oui, il y en avait qui venaient uniquement derrière pour faire la bagaille. Je m'en souviens une fois, pour une manifestation, il y avait, l'Anza de Vasto qui montait, c'est là où il nous a sauvé la mise. Ils avaient mis des sentinelles sur tous les chemins du Larzac. Il y avait des gars qui montaient avec des... pour mettre le feu, là, des cocktails Molotov. Des cocktails Molotov. Et ils les faisaient poser par terre, et on a sauvé la mise avec ça. Sinon, on n'allait pas que ce pipe. Hein. Les CRS attendaient que ça.
Le Larzac a vu arriver des contestataires de tout poil, alors là. Hein.
Jean Andrieux.
Et on a vu des manifestations gigantesques, énormes.
Vous étiez dépassé, vous n'y comprenez rien.
On pensait pas que ça puisse prendre une telle ampleur, parce que d'abord les contestataires, les agriculteurs locaux qui se sentaient menacés, ont commencé à s'unir pour réagir, mais ils ont été vite dépassés par un tas de contestataires de tout poil, comme je vous dis. On a vu des manifs pas possibles, énormes, jusqu'à 80 000 personnes. Tout le monde venait contester, 68 était pas loin, on contestait pour le nucléaire, on contestait pour le barrage de Nossac, pour le Larzac, tout était bon pour contester.
Notre bagarre, toutes nos luttes, avec tous les caractères qu'elles ont, elles sont la lutte du tiers-monde contre le capitalisme et l'impérialisme.
Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure de la lutte, la terre, c'était secondaire. On se rendait vraiment compte qu'il fallait quand même qu'on tienne nos hectares. C'était très important pour pas que l'armée s'y installe. Mais les idées étaient beaucoup plus belles, heureusement. Comme très vite, on s'est rendu compte que seul, on n'existait pas. Et qu'il fallait ce soutien extérieur. Sans le soutien extérieur, on ne serait pas là.
Et là, on venait écouter, c'est aussi une époque, c'est l'époque du retour à la Terre.
Oui.
C'est l'époque d'une musique justement non électrique, contestataire, issue de Dylan et de John Baez, etc.
Oui.
Et tout cela, ça se fédère sur ce plateau du Larzac, dans des grandes fêtes.
Oui, alors avec un thème. Hein, le premier rassemblement, c'était les paysans travailleurs. Le deuxième, c'était le blé fait vivre, les armes font mourir. Et... C'était incroyable, du monde, bon, 50 000, 60 000, 70 000 personnes. Et puis, un grand travail à faire avant, toujours aidé par les comités Larzac, notamment la GOP, Gauche ouvrière paysanne. Et c'était fou, c'était un petit peu du délire, mais c'était formidable.
Hein. On disait on monte, alors on montait. On partait sur la route. Il y en a qui passaient par Montpellier, par l'Odève. Il y en a d'autres qui passaient directement par Ganges, qui allaient à Nantes, comme ça. Et puis on commençait à avoir des problèmes avec les flics et tout ça. Et puis on arrivait là-haut. Et puis c'était Woodstock, quoi. C'était la fête. Il y avait évidemment
Claude Guerre,
les orchestres. Il y avait des vendeurs de frites. Moi, je suis monté vendre des frites aussi une fois. Et puis on dormait là. Et puis on restait. Et puis on dormait dans les granges. Et puis il y avait des liens plus ou moins tissés avec les paysans, avec moi, j'allais à l'hôpital et on avait construit une grange aussi. Ah ouais, je me rappelle, on avait construit une grange.
C'était la bergerie Reproche.
Oui. À la Blaquière. Et ouais, bien sûr, on a passé des semaines à la Blaquière pour construire la grange.
Siamo in pace e non scal fai la guerra. Andiamo parti a miei giornali.
Ceux qui ont construit la bergerie de la Blaquière, c'est une épopée, cette bergerie de la Blaquière construite par...
Mais racontez un peu la bergerie, oui.
Construite par des jeunes qui étaient presque mal vus dans cette période-là, parce qu'ils arrivaient avec des réputations de mœurs particulières ou de mœurs faciles. On couchait avec les filles n'importe où, voire avec les garçons.
La messe, n'en parlons pas, il n'y avait pas de religion, et tous ces garçons venaient là et faisaient maçon, mangeaient des nouilles, n'avaient pas grand-chose, et petit à petit, ils démontraient aux paysans qu'on pouvait bâtir une bergerie à l'ancienne, en pleine lutte, sans autorisation. Et les paysans, qui au départ n'étaient pas très chauds, se sont finalement intéressés à ces jeunes, et ça a été une épopée. Moi, je me souviens avoir gâché du béton le samedi avec eux. On se disait, mais ces chevelus, c'était à l'époque, on disait les chevelus qui étaient mal vêtus, ces filles qui étaient mal fichues, qui étaient là, et finalement on découvrait que c'était des jeunes pleins de générosité, qui avaient un idéal fantastique, qui étaient très intransigeants pour le bourgeois, mais finalement qui acceptaient de côtoyer ce bourgeois s'il était là en train de faire du béton avec eux, quoi.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Pour moi qui suis du Midi, c'était un endroit, c'était l'endroit de la beauté. Pour nous, c'était l'endroit de la beauté. Moi, je dis souvent, c'est la première fois que j'ai entendu Pink Floyd dans une voiture, une déesse. Je sais pas pourquoi on avait une déesse, d'ailleurs. À cette époque-là, je sais pas comment on mangeait, comment on avait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas du tout. C'était c'est le vide absolu. Je ne sais pas comment on vivait, économiquement parlant. C'est inexplicable aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut de l'argent. À cette époque-là, on allait partout sans argent, on se démerdait. Et puis, tous les avatars de 68 qui se baladaient dans la France entière depuis 68, perdus, ne sachant plus où poser ou se poser, on déboulait là-dedans. Et le souvenir que j'en ai, effectivement, c'est un désastre, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là déboulaient avec non seulement leur folklore, je veux dire leur accent lointain, leurs références lointaines, leur idéologie, leurs journaux. Je veux dire, Libération, à cette époque-là, c'était une catastrophe. Libération était en train de se fabriquer, plus ou moins. Il y avait des pleines pages de Libération avec des photos de gens, et puis il y avait écrit dessous « Les maoïstes du Larzac avec des gueules de paysans », enfin, des choses... Pour nous, c'était « On se différenciait comme ça ». On était du pays et on voyait ces gens. Et en même temps, je ne peux pas dire non plus qu'ils étaient mal vus, parce qu'ils faisaient du nombre, et que les paysans avaient besoin de nombre, et que tout le monde avait besoin de nombre, puisque ça se jouait sur un rapport de force comme ça, quoi.
Cela dit, les habitants du Larzac, eux, ne sont pas tous unanimes, tant s'en faut, à réclamer l'abandon du projet d'extension du camp militaire. Ainsi, un comité pour la paix et l'ordre sur le Larzac a été créé à l'initiative des commerçants de la cavalerie où se trouve le camp militaire lui-même. Il n'est qu'à écouter d'ailleurs cette commerçante qui a vu, disons d'un mauvais œil, l'arrivée de ces milliers de jeunes manifestants, dont la plupart n'ont qu'une idée très approximative du métier de paysan.
Les gens qui veulent vivre au Larzac, ce sont nous, c'est nous autres qui nous sommes intéressés, j'estime. Hein? Et qu'est-ce que vient faire cette bande de va-nu-pieds, de sans-culottes, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Si nous voulons défendre le Larzac, c'est à nous. Moi, je suis commerçante ici. Et si je travaille avec l'armée, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est une très, très bonne clientèle. Parce que qu'est-ce qu'ils nous font vivre, les hippies? Absolument rien. Ils nous volent.
Vous êtes favorable à l'extension du camp?
À l'extension du camp, oui, je suis favorable. Mais je demande également qu'on vive avec les vrais paysans du Larzac. Ne parlons pas de ceux qui sont venus s'implanter, qui se prétendent être paysans du Larzac et qui ne le sont pas du tout.
C'est un comble. Les hippies, payés par certaines sociétés de Roquefort, pourrissent notre région. Non au drapeau rouge sur Nantes et Saint-Martin. Non à l'amour libre dans les cimetières et les églises. Dehors les fainéants, dehors du Larzac. Repartez avec votre drogue et votre crasse. Association pour la vérité sur le Larzac.
C'est allé en s'amplifiant, quoi. À la fin, c'était un voyage touristique. Il y avait même des gens qui venaient de partout, d'Europe entière et tout ça, évidemment. Mais c'est pas comme on verrait aujourd'hui avec des queues de bagnoles, invraisemblables. Quoi qu'il y en avait, bien sûr, il y en avait, puisqu'on montait, on était obligé de monter en voiture. Mes souvenirs, c'était Woodstock, ouais, au sens où les sacs de couchage, les mecs qui dormaient là, et puis
vous savez,
les concerts. Mais je sais pas, à cette époque-là, on se lavait pas. Ça comptait pour rien de se laver. Non, on allait se baigner, on allait en bas, à Millau, on se baignait. Il y a eu, c'était l'époque de... Tu sais, c'était l'époque des concerts folk en plein air. Moi, j'en ai fait plein. Parce que la vie, c'était de se déplacer, d'aller où il se passait quelque chose. Donc, il était annoncé des choses et ça prenait la route et on allait à tel endroit et on dormait 3 jours. Il y avait des concerts et je les mélange un peu tous. Au niveau des concerts, je les mélange tous. Moi, je ne crois pas que j'ai assisté assis à un concert au Larzac. De toute façon, on n'était pas assis. Assis, ce n'était pas révolutionnaire d'être assis. Donc on bougeait, ça discutait. L'essentiel, c'était de rouler en bagnole, rouler, discuter, mettre le monde en mouvement.
Nous sommes ici pour imposer la légalité des travailleurs. Giscard et tous les aristocrates qui t'entourent, prenez garde. Tu peux te servir de l'arsenal des lois, des décrets, des ordonnances, avec l'aide de tes flics. Tu n'as aucun destin, ni petit, ni grand.
Depuis 20 ans, j'ai travaillé pour préparer pour mes enfants la succession, pour leur préparer un bel avenir avec un bel outil de travail, et maintenant de voir qu'on va les chasser comme ça, c'est une chose qui m'est insupportable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de voir toute cette foule de partout, venue de tous les coins de France, c'est une chose qui me réjouit. Non, je ne peux pas dire ce que ça me fait. Il n'y a pas de mots assez riches pour dire ce que je ressens. Vraiment, c'est merveilleux cette solidarité que nous avons trouvée ce soir, hier soir et aujourd'hui ici.
Il y a parti que ti cabine, c'est la diffondio. Il y a parti que ti cabine, c'est la diffondio.
L'été, tout le monde se presse sur le plateau, François Mitterrand en tête. Mais pour populariser leur combat, ceux du Larzac doivent redoubler d'imagination le reste de l'année. Ils montent sur Paris, en tracteur, ils plantent 103 arbres le long de la Nationale 9, créent une université du Larzac, suscitent la naissance dans toutes les villes de France de comités de soutien, investis par les gauchistes ou par les non-violents, décident du renvoi de leurs livrets militaires, proposent à ceux qui les soutiennent de soustraire 3% de l'impôt sur le revenu pour le Larzac. Et puis, l'hiver venu, le harcèlement des militaires est quotidien. On fait appel aux soutiens les plus proches du Larzac, les habitants de Millau. Gérard de Ruy.
Et en général, les actions ne démarrent que quand les paysans sont d'accord. Ou bien c'est les paysans qui nous appellent au secours. Demain, il y a, je sais pas, il y a le commissaire enquêteur qui va dans telle ferme pour voir si un tel ou un tel est vendeur. Il y a un officier qui un expert de l'armée qui est sur le terrain. On veut le bloquer, mais on est que 20, on est que 25. Est-ce que vous, Millau, vous pouvez monter? La veille, on nous téléphone pour dire demain matin, à 10h, tout le monde sur le Larzac. Et téléphone arabe, c'est l'hiver, c'est quand il n'y a plus personne ici. Hein. Donc, se présente sur le Larzac toujours 50, 80, 100 personnes avec les paysans pour des actions précises sur le terrain, faire une tranchée en travers de la nationale pour faire passer l'eau en disant on fait l'adduction d'eau, mais si on veut la faire, nous on l'a fait. Je me souviens d'actions comme ça, quoi, très, très vives, ou bien les enquêtes parcellaires où on bloque les mairies, on pique même les registres. Il faut du monde. Et chaque fois, téléphone les paysans, et ils savaient trouver le comité Millavois quand ils avaient personne d'autre sous la main.
Jean Vérac était alors colonel au camp du Larzac.
Chacun campait sur ses positions. Et puis, vous savez, le camp d'Iratan fait que fréquenter les militaires à ce moment-là. Je vois même des camarades qui n'étaient pas militaires, des Aveyronnais. Quand on abordait le sujet, c'était presque un peu comme l'affaire Dreyfus, vous savez, sur ces caricatures. Ils en ont parlé. On n'en arrivait pas à ce point-là, mais enfin, il y avait un climat de tension. Et là, je vous en parle, je suis totalement dégagé de tout tabou. Vous savez, les militaires venaient, il n'y avait que très peu de militaires en place sur le Larzac. Ce sont des gens qui venaient ailleurs, il n'y avait pas les installations qu'il y a maintenant. Alors certes, il y en avait qui faisaient des erreurs. Vous savez qu'on a gardé les fermes, on a dû vous en parler. Pour éviter qu'elles soient squatterisées, militaires gardaient les fermes. Imaginez-vous un régiment venant d'Allemagne ou de l'Est de la France, arrivant de nuit au Larzac, et devant regagner, le soir, une ferme par les petites routes que vous avez vues. Il y avait des erreurs. D'autant plus qu'il y avait eu un accord pour éviter que les camions militaires se croisent avec le quart de ramassage scolaire, des accords d'horaire. Il était facile de piéger les gens en dehors des horaires. Le type qui était perdu, le type qui avait oublié de prendre assez de pain, il sortait des créneaux, barrages, etc. Il n'y avait pas les panneaux qu'il y a maintenant. ben, automatiquement, barrage, vous ne respectez pas les contrats, appel au sous-préfet, etc. Ce n'est pas des erreurs.
On ne voulait pas vivre avec comme voisinage avec l'armée. Donc, ce qui soudait, c'était d'être essentiellement contre l'extension de ce camp militaire.
Elisabeth Bayon.
Bon, alors, on avait tous des raisons différentes. Bon, les paysans, elles sont très connues. Nous, on était venus pour des raisons d'amour du paysage, de l'architecture. Et disons qu'on trouvait que ce patrimoine méritait mieux que d'être dans un chantier. Enfin, c'était d'ailleurs la destruction. Là, il y a eu une réussite, je crois, que entre des intellectuels, des gens... des urbains et les paysans, l'accord s'est fait mieux qu'il ne s'était fait avec le monde ouvrier.
René Dumont à la campagne, le candidat écologiste s'est rendu au Larzac pour affirmer sa solidarité avec les agriculteurs qui s'opposent à l'installation d'un camp militaire.
Je suis venu ici non pas seulement vous visiter, non pas seulement m'associer à votre protestation, mais je suis venu aussi participer à l'opération GFA. Je désirais prendre une action du groupement foncier agricole personnel, une action. J'avais justement décidé de le faire un peu avant les élections, mais j'avais tellement de travail que je ne pensais pas à ce moment-là que la candidature m'amènerait ici. Donc je préférais le faire publiquement que de le faire parce que j'estime qu'il faut appeler les Français, les Françaises, à acheter les terres du Larzac pour empêcher qu'elles soient achetées par l'armée.
Pierre Burguière, d'où vient cette idée du groupement foncier agricole, le GFA ?
Ça, c'est Guy Tarlier qui en a eu l'idée, parce qu'à un moment, l'armée achetait, c'est en 1974 plutôt, je crois, que l'armée commençait d'acheter des terres, et puis, bon, nous, on ne pouvait pas, alors qu'il y avait, on cherchait pas à acheter en équivalence avec l'armée, mais on cherchait à acheter des points stratégiques pour empêcher l'armée de pouvoir faire une unité de terre. Et en fait, ça a très bien marché, puisqu'on on a acheté comme ça 16 600 hectares. Ça a eu un choc psychologique vis-à-vis de l'armée, énorme. Hein.
Même le canard enchaîné est venu acheter des
Le canard a toujours sa mare, d'ailleurs. Elle n'est pas très loin d'ici. Et puis, il y a eu, au moment des enquêtes parcellaires, c'est-à-dire dans les années 79 ou même 80, l'armée avait ficelé toute la phase juridique auprès des tribunaux. Les prix étaient quasiment fixés. Il manquait à prendre les arrêtés de cessibilité, les ordonnances d'expropriation. Alors nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à des gens qui étaient propriétaires de petites parcelles, mais qui ne les gêneraient pas, de vendre ces parcelles à 50, 80, 100 propriétaires différents, en plus qui résident de préférence le plus loin possible, dont beaucoup de gens à l'étranger, pour obligés à refaire toute la phase juridique. Et ça a tellement bien marché que ça a mis une pagaille monstre, ce qui fait que ça nous a permis aussi de gagner du temps. Le lutte du Larzac, il fallait toujours gagner du temps.
Léon Maillet, il y en a eu des procès pour le Larzac ?
Oui, ben, renvoi des militaires, obstruction de convoi, etc., et occupation illégale, enfin bon. Le tribunal, on connaissait, on y a même rentré une fois un troupeau de bovis à l'intérieur.
On a du mal à comprendre comment des gens qui, a priori, sont des gens légalistes au tout départ, qui sont des gens qui admettent l'autorité de l'État, qui admettent la façon dont tout se passe habituellement dans un État normal, en viennent à enfreindre les lois et à apparaître pour certains comme des hors-la-loi.
Oui, mais ça c'est dans l'ambiance aussi. C'est dans l'ambiance, on fait des choses extraordinaires. Des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, c'est la preuve. Et il y a aussi le fait que des non-violents au début sont venus nous faire des conférences et nous ont expliqué un petit peu la différence entre la légalité et la légitimité. Vu de loin, et après on se demande comment ça a pu marcher. Mais à l'époque, lorsqu'on était dedans, on ne pensait pas autrement que ça ne marcherait pas. En fait, c'était pour nous, c'était évident qu'on allait gagner si on n'avait jamais fait tout ce qu'on avait fait. Moi, je me rappelle à l'époque, ici, dans notre maison, on a agrandi, là, on a fait 4 pièces de plus dans ma maison, on a fait une bergerie neuve aussi. Pendant l'affaire Larzac, sans pas me construire, il fallait être débile pour faire ça. C'est preuve qu'on avait un moteur intérieur qui nous faisait dire, mais de toute manière, on gagnait un jour, là. Donc ce qu'on le fait, c'est qu'on va rester. Et on le fait parce qu'on va rester.
Le Larzac est emprisonné. Soutien aux 22 paysans inculpés. Arrêt immédiat des achats de terres par l'armée. Tous au tribunal de Millau, vendredi 2 juillet à 10h.
Marisette Tarlier,
Il vous est arrivé d'aller en prison pour le Larzac. C'était quand?
C'était en 76. Et on avait fait... À un moment donné, dans la lutte du Larzac, il y a eu ce qu'on appelle... On a cédé un petit peu au gouvernement ou à la région... Et qui nous faisait. On a voulu. Il y a eu des discussions. Hein. J'insiste bien sur le mot discussion et non pas négociation, comme on veut bien le dire tout le temps. Ça, j'insiste bien. Et pendant cette période-là, on avait demandé que l'armée arrête ses achats de terres. Ils achetaient des terres à des gens qui n'étaient pas sur le plateau du Larzac, hein, qui n'étaient pas paysans. Alors on avait demandé que ça s'arrête et on voulait bien discuter. Et pendant ces discussions, on s'est rendu compte notamment que Montredon avait été acheté par l'armée. Un truc assez incroyable. Donc on a stoppé bien évidemment les discussions et on a décidé d'aller dans le camp militaire, de faire un commando de 22 personnes. Et on s'était dit naïvement que si on allait en prison, peut-être qu'on gagnerait. C'est très bête. Et puis voilà, on est rentré à 22 avec l'intention bien arrêtée de se faire arrêter, si je puis dire. Et on a ouvert les tiroirs, etc. Et moi, j'ai trouvé des choses. Donc j'ai découvert des gens qui nous avaient juré qu'ils ne vendraient pas et qui vendaient. J'ai pris les papiers, je les ai mis dans mes poches. Et puis tout comme ça, on a pris beaucoup de photos et tout. Puis on s'est fait arrêter. Bon, on a été jugés. Et on a été condamnée à de la prison. J'étais considérée comme une voleuse et j'étais privée de mes droits électoraux à vie.
Vous étiez de toutes les montées à Paris, Pierre Burguière ?
Oui, que ce soit les brebis, les tracteurs, à pied, je marchais pas toujours, mais je m'occupais de préparer la marche en avance, que ce soit le Champ de Mars et d'autres actions aussi moins spectaculaires, c'est sûr.
Est-ce que vous étiez reçu dans les ministères, par exemple ?
J'y étais, oui, 3 ou 4 fois, mais j'avais horreur de ça.
Pourquoi ?
Parce que là, on sent que... Autant ici, on est dans notre élément, dans une manifestation, mais dans les bureaux, on n'est pas à la hauteur de... On n'est pas suffisamment crapule. Hein, il faut être requin pour affronter ces gens-là. Et Dieu merci, quand même, on avait quelqu'un qui est sur le plateau, justement Guy, qui était un ancien militaire. Et ça nous a énormément rendu service dans beaucoup de circonstances, et en particulier dans les négociations, parce que lui anticipait déjà la réponse du ministre ou du chef de cabinet. Alors bon, ça nous arrange bien. Et que c'est pour ça qu'on n'a jamais rien signé, parce qu'au fond de nous-mêmes, on se disait toujours... De toute façon, il y aura quelque chose de caché qu'on n'aura pas vu. Alors, tant qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas partir et qui doit partir, eh bien, on ne signe pas. Comme ça, on est sûr de ne pas se compromettre, en tout cas de ne pas se faire piéger.
Monsieur le Président, actuellement, les paysans du Larzac marchent sur Paris dans le but de vous rencontrer pour vous demander de stopper la procédure d'expulsion pour agrandir le camp militaire. Recevrez-vous ces hommes et ces femmes qui, depuis 8 ans, luttent pour ne pas abandonner leurs terres ?
Madame, il y a en France des institutions. Et nous ne sommes pas un régime de pouvoir personnel, grâce à Dieu. Et donc des problèmes comme ceux-là, c'est-à-dire des problèmes d'utilisation de terres à des fins d'utilité publique, doivent être traités par les institutions. Il y a eu des procédures administratives nombreuses qui ont été engagées sur le plan local et sur le plan national. Il vient d'avoir un débat parlementaire qui a eu lieu sur les crédits de la défense et où je n'ai pas observé que ce problème ait été posé. Et je considère que c'est au sein des institutions compétentes que ce genre de problème doit être posé et qu'il doit trouver sa solution.
Conférence de presse de Valéry Giscard d'Estaing en novembre 1978.
Moi, je dois vous dire que j'ai fait 2 mandats à la Défense nationale.
Paul Masson.
Et autant l'époque initiale, c'est-à-dire 71, 72, 73, était une époque où, en définitive, il y avait un blocage. Autant, lors de mon 2e mandat, c'est-à-dire avec Yvon Bourges, où j'ai retrouvé le dossier du Larzac à peu près en état, j'ai beaucoup avancé, c'est-à-dire qu'il y avait d'une part une certaine lassitude, d'autre part la mystification apparaissait à beaucoup, et puis enfin les gens commençaient à raisonner, on avançait, les choses se précisaient, les militaires avaient acheté des terrains, il y avait quand même des vendeurs, il restait plus que 3 points durs, autant que je me souvienne, Et je me souviens de la grande marche du Larzac et, qui a été conduite à pied et avec tracteur jusqu'à Paris en 1978, si ma mémoire est fidèle. En Conseil des ministres, les ministres se sont posé le problème de savoir qui allait les recevoir à Paris. Quel ministre, la Défense nationale, de l'Intérieur. Finalement, tout le monde s'est trouvé d'accord pour dire que ce sera Paul Masson.
Un premier pas peut-être vers un dialogue. Une délégation de paysans du Larzac a été reçue pendant 3 heures ce matin par le directeur de cabinet et de Yvon Bourges, le ministre de la Défense. Au micro d'Hélène Bessis, Guy Tarlier, qui conduisait la délégation.
Je pense qu'il ne nous est pas possible de donner un compte-rendu de tout ce qui s'est dit en presque ces 3 heures. Demain, nous ferons une conférence de presse. Il faut que nous fassions une analyse de ça. La seule chose, c'est que nous trouvons que c'est très malheureux d'arriver à un tel contact et d'une telle ampleur au bout de 8 ans et après 710 km à pied.
Mais est-ce que vous vous sentez plus optimiste?
Le ton a beaucoup changé. Il nous semble, depuis les fois précédentes où nous avions été amenés à aller au ministère de la Défense nationale.
Et j'ai reçu, moi, à Paris, très officiellement, une délégation, ça s'est très bien passé. Et à la suite de cette délégation et des négociations qui ont suivi, on avait voulu trancher, aboutir. Et j'étais à deux doigts de réussir. Donc j'avais obtenu de la part des militaires, pour la première fois, des abandons substantiels de territoire. Larzac avait pu cette forme... cher à l'armée, n'est-ce pas, très clair, géométriquement déterminé. Il était un peu biscornu, mais enfin, on avait des axes de tir suffisants. La sécurité n'était pas en cause. J'avais obtenu de la part des militaires des marges de négociation. Du côté des organisateurs et du côté des partenaires agriculteurs et avec l'appui des syndicats, on avait également trouvé des avancées. J'étais absolument convaincu que l'affaire était quasiment réglée. Il n'y avait plus qu'à laisser jouer l'année ou les 2 années, n'est-ce pas, de négociations autour des domaines et avec, bien entendu, l'obligation de faire des papiers pour arriver à un règlement. Quand j'ai quitté la Défense, je crois qu'il restait peut-être une centaine d'hectares, n'est-ce pas, qui posaient encore problème et qu'on aurait réglé, je ne dis pas à l'usure, mais dans l'apaisement général.
Gérard Deruy.
On sentait que ça allait partir un petit peu en déliquescence et qu'il y aurait peut-être une bagarre finale très dure et puis qu'après ça serait perdu si la droite repassait aux élections de 81, puisque c'était un peu la sortie de la lutte à ce moment-là. Mais on sentait que c'était la fin, quoi, qu'on ne tiendrait pas 5 ans de plus dans le climat et le débat du moment. Donc la gauche devient l'espoir, la gauche est porteuse d'espoir, et même des gens de droite, je pense que même Pierre Laure, qui était patron à Roquefort, a dû voter Mitterrand pour la première fois de sa vie, peut-être la dernière, mais a dû voter Mitterrand à ce moment-là, sans doute. Parce qu'il y avait une promesse de Mitterrand, et cette promesse a été tenue. Il a fallu encore se battre un petit peu pour qu'elle soit tenue, puisque Hernu était devenu ministre des armées, et que Hernu, dès qu'il a été au ministère, a été circonvenu par l'état-major, qui lui a dit, monsieur le ministre, bon, maintenant que vous êtes aux affaires, que vous pouvez voir les choses sérieusement, vous voyez bien qu'on ne peut pas, nous, reculer sur cette affaire-là. Alors Hernu commençait à reparler d'un camp de moindre importance, mais d'un camp quand même. Alors là, il a fallu mettre le paquet au niveau du Parti socialiste, des paysans, et monter à l'Élysée, comme on dit ici, être reçu par Fournier, puis par Bérégovoy, qui étaient des chefs de cabinet de Mitterrand, pour lui dire, attention, sur le terrain, on attend la décision, et nous, les socialistes en particulier, ça va aller très mal si Mitterrand ne tient pas sa promesse. Et Bérégovoy a vu Mitterrand dans les jours qui ont suivi, et m'a téléphoné après en me disant, bon, mais ça y est, le prochain Conseil des ministres, Mitterrand va annoncer la décision que l'extension du camp militaire est annulée. Donc, et là, bon, soulagement et victoire, et les roses partout, et ce fut un grand moment pour tout le monde. Quoi.
Parce que même le dimanche au soir, on ne pensait pas avoir gagné. Presque, c'est des copains qui nous ont téléphoné en disant « Mais oh, vous avez gagné !» Ah oui, c'est vrai, on se disait, on n'y pensait plus que c'était une promesse de Mitterrand. On était tellement habitués à vivre dans la lutte
que j'allais presque dire on aurait vécu toute notre vie, quoi. Enfin, même si du jour on avait pas trop le moral, mais on avait une organisation, une banque parallèle, en fait, tout ce que vous voulez. On avait même le téléphone gratuit entre nous automatique. On avait un financement annuel, avec le refus de l'impôt, les dons, mais on avait 40 euros et centimes tous les ans, quoi. Ça nous payait les procès, ça nous payait quelquefois même des routes goudronnées, en fait, c'était incroyable. Ça fonctionnait, on fonctionnait.
Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp.
C'était l'histoire en direct, 1970-1981, le Larzac. Une émission préparée par Aurélie Luneau, Archivina Anne Trifunovic et Martine Auger, texte lu par Jacques Bosque, prise de son et mixage, Patrick Saboy de Radio France Hérault, Frédéric Kérou, Pierrick Kerdelevé, avec Pierre Mesmer, André Fanton, Paul Masson, Jean-Louis Espers, Jean Andrieux, colonel Jean Vérac, Elisabeth Bayon, Marisette Tarlier, Christiane et Pierre Burguière, Léon Maillet, Pierre Laure, Claude Guerre et Gérard de Ruy. L'histoire en direct, une émission d'Emmanuel Laurentin, réalisée par Anne-Pascale Desvignes.
Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er septembre 1997. À suivre.